Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
On va se demander quels vont être les effets psychologiques de ce fameux 28 jours où on devra réduire nos interactions au strict nécessaire et peut-être aussi sur un confinement partiel ou total. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui nous pend au nez. On en saura plus évidemment à 17h30 ce soir. On parle avec le docteur Christine Groulx qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Groulx, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, on n'a pas des bonnes nouvelles depuis quelques jours, puis on veut pas taper sur le clou encore plus, mais il faut bien admettre, là, il y a des gens qui, en ce moment, ils sont en train de se demander comment ils vont faire pour passer au travers de cette deuxième vague-là d'un point de vue psychologique. Il me semble qu'on vient à peine de s'en sortir, et là, ça semble une montagne.
Oui. Ben, c'est parce que les gens sont quand même fatigués de la première vague. Hein?
Ouais.
Faut pas sous-estimer l'énergie que ça a demandé. Ça a demandé énormément d'adaptation. D'abord, les gens ont eu peur à leur survie. Ils ont eu peur de la contamination. Ils ont eu peur de la propagation. Ils ont pensé qu'ils pouvaient en mourir. De sorte qu'il y a des gens qui ont perdu des personnes, des gens qui ont perdu des emplois. Ensuite, ils se sont mobilisés puis ils se sont adaptés à une nouvelle façon de vivre. On pensait que c'était pour quelques semaines. Ça a duré plusieurs mois. Et dépendamment de comment ça a été vécu par les personnes, les gens vont être dans un état d'esprit différent au moment de l'amorce de la deuxième vague. Les gens qui l'ont vécu extrêmement difficilement vont probablement être plus appréhensifs que les gens qui ont réussi à relativement bien s'en sortir. Mais quelle que soit la façon dont on l'a vécu, il y a une espèce de fatigue psychologique, je vous dirais, chez à peu près tout le monde, parce que ça a demandé énormément d'adaptation.
Et la résilience, c'est fatigant, finalement? C'est ce que vous me dites?
La résilience, c'est très... ça apporte énormément, c'est-à-dire que c'est très porteur dans la vie. Mais, tu sais, la résilience, ça demande une certaine forme d'autocontrôle, ça demande de la souplesse cognitive, ça demande des capacités d'adaptation, ça demande de tolérer l'incertitude. Mais disons que là, il y a eu une demande qui a été quand même assez grande à la population, parce qu'on est une population qui a la chance de ne pas avoir connu des drames comme ça à ce jour. On a été très épargnés.
Mais oui.
Donc, on n'a pas vécu de grandes catastrophes, si vous voulez, sur le plan humain.
Oui, fait que c'est comme si c'est pas vrai. C'est comme si c'est un film. On dirait qu'on veut pas admettre qu'on est dans un moment historique, justement, où on devra sacrifier collectivement bien des affaires, là.
Je pense qu'on l'admettait beaucoup mieux au printemps que maintenant, parce que les gens l'admettaient. On entendait beaucoup de gens dire « Jamais je n'aurais pensé vivre une telle chose. » Tu sais, on avait tous lu la peste de Camus, on a tous lu sur la grippe espagnole, on a tous lu sur les grandes pandémies, mais personne ne pensait jamais qu'il vivrait ça de son vivant. Cela dit, les gens ont commencé avec une réserve d'énergie qui était quand même assez grande parce que puis les gens ont eu la même compréhension de la situation au départ, ce qui a aidé beaucoup parce que les gens ont été très solidaires puis ont été très dociles, je vous dirais, dans leur façon de suivre les directives. Là, c'est sûr que ça s'effrite parce que les gens sont probablement très différents dans leur compréhension de la situation, dans leur perception de la situation. Mais il n'en demeure pas moins que ça va demander encore un effort collectif, puis ça va demander de puiser dans nos ressources puis nos énergies pour être capable de passer au travers. Ce qui est difficile pour les gens, c'est qu'ils savent que ça peut durer plus longtemps qu'on le pense.
Puis là, ça va être l'hiver aussi. Là, ce qui nous a sauvés la dernière fois, c'est le printemps qui arrivait. On pouvait sortir, prendre des marches. D'ailleurs, on a beaucoup tapé sur ce clou-là. Sortez, prenez des marches, ça va bien aller. Là, je vois octobre qui s'en vient. Le manque de luminosité, ça sera pas pareil. Oui.
L'hiver fait en sorte qu'on est déjà confiné davantage. Par l'hiver, on sort moins, on est moins dehors, on se voit pas court à court, puis effectivement moins de lumière. Alors c'est sûr que l'hiver, oui, c'est très différent de l'été où on peut faire des activités extérieures, incluant le jardinage. Mais il faut bien comprendre que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire ça non plus. C'est pas tout le monde qui a une grande cour et pouvait jardiner. Mmh. Alors c'est pas. On a tous vécu cette période-là, mais on l'a pas tous vécu de la même façon. Alors je dirais que il faut certainement faire attention à la santé psychologique des gens. À ce moment-ci, je pense que nos dirigeants sont bien conscients de ça, mais ça va être un facteur déterminant. Parce que si la population ne va pas bien, ça va être plus difficile d'exercer un jugement adéquat par rapport à la situation.
Mais parlons-en de la population. Il y a des chiffres qui sont sortis la semaine passée, des Québécois qui prennent de plus en plus d'antidépresseurs depuis le début de la pandémie. Les réclamations chez les assureurs privés là, pour ces types de médicaments-là, on a une hausse de 20%. Il y a des effets palpables là, au niveau de la santé psychologique, Mme Groulx.
Oui, mais on les connaît pas encore totalement. Faut faire attention parce que ce qu'on disait dans l'article la semaine passée, c'est qu'il y a une augmentation de 20% des réclamations aux assurances privées. Donc, ça veut tout simplement dire que peut-être que les gens en confinement ont eu le temps de mettre leurs papiers à l'ordre puis de faire leurs réclamations.
Ah, oui.
Mais il y a pas eu une hausse de prescription puis il y a pas eu une hausse de renouvellement. Encore là, possiblement parce que les gens n'osaient pas se rendre à la pharmacie ou n'osaient pas se rendre dans le bureau de leur médecin traitant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas encore terminé, on n'a pas encore fini d'évaluer les effets sur la santé psychologique de la population. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des recherches qui démontrent effectivement, parce qu'il y en a des recherches qui sont faites sur la santé mentale de la population pendant la pandémie, puis il y a des recherches qui démontrent assez clairement une augmentation de l'anxiété, une augmentation de la dépression. Les cliniciens voient aussi une aggravation de certaines problématiques. Puis ça, on pouvait l'anticiper, puis on pouvait s'y attendre, parce que c'est quand même difficile à vivre, surtout pour les gens qui ont déjà certains problèmes de santé ou certaines vulnérabilités.
Je veux qu'on se parle des adolescents, parce que là, on leur a beaucoup demandé hein, au printemps, là, c'est-à-dire, bon, ils n'allaient pas à l'école, on leur a demandé de couper les ponts, entre guillemets, avec leurs amis. C'est clair qu'ils pouvaient se fréquenter via les médias sociaux, via FaceTime et toute la technologie à leur disposition, mais c'est pas la même affaire. Là, on les retourne à l'école. Il y a des écoles où il y a de l'isolement, il y a des écoles qui sont fermées en ce moment et on demande à la population de couper les contacts pour 28 jours. Comment on gère ça comme parents? Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui étaient excessivement déprimés hier soir, là, puis dans les derniers jours, de voir leur vie sociale à nouveau amputée.
C'est certain. Puis pour les adolescents, c'est difficile parce qu'ils ont peut-être un peu moins de recul, ils ont peut-être un peu moins de capacité à relativiser. Je pense que, comme adulte, il faut les aider à avoir une perspective temporelle. C'est-à-dire, tu sais, quand on n'a pas vécu longtemps, un an, ça paraît plus long que...
Oui, ma fille me dit qu'elle a gaspillé sa vie, là. C'est ça qui se passe pour elle. Toute son adolescence, elle est gâchée.
Mais tout à fait. Puis en même temps, toute l'adolescence, ça dure plusieurs années. Ici, on est encore dans un intervalle de 6 mois. Donc, il faut aider l'adolescent à relativiser. Puis ce qui va aider beaucoup aussi, c'est, vous savez, ça donne rien d'essayer d'imposer des idées aux adolescents. C'est important d'essayer de les questionner sur OK, on vit ça, là, mais qu'est-ce qui est le plus difficile et sur quoi on a du contrôle pour te rendre ça plus facile? Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Il y a des consignes qu'on n'aura pas le choix de suivre ou de ne pas suivre. Ça va être difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté en famille et qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que ce soit le moins difficile possible? Et ça, il faut aider les adolescents parfois à faire cette réflexion-là, à savoir, regarde, on va départager les choses qui sont non négociables, incontournables, des choses où on a de la marge de manœuvre. Puis dans ce qu'on a de la marge de manœuvre, on va te laisser un espace de parole puis on va essayer de trouver des solutions ensemble. Puis même si on admet que ça va être difficile, parce qu'il faut admettre que oui, c'est pas simple, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour les parents aussi.
Oui, c'est ça, c'est dur d'aider. C'est dur d'aider quand nous-mêmes, on sent qu'on n'a pas la tête totalement hors de l'eau, là.
Mais tout à fait. Puis je pense que la communication, tu sais, ça va aider beaucoup parce que quand on s'assoit à la table avec nos ados puis qu'on fait part des difficultés qu'on vit nous aussi et qu'on surtout qu'on les invalide pas dans ce qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'on minimise pas ce qu'ils vivent eux, puis on donne crédit à la difficulté qu'ils ont, ben déjà ils se sentent écoutés, déjà ils se sentent moins tout seuls.
Ah, j'aurais eu tendance à penser qu'il fallait se montrer fort pour donner l'exemple, mais non, il faut comme dire que nous aussi ça a des effets négatifs sur notre santé mentale.
Mais Mais absolument. De toute façon, ce que vous leur dites pas, ils vont le voir puis ils vont s'en apercevoir. Alors, il faut admettre aux adolescents que c'est difficile. D'abord, il faut reconnaître que c'est difficile pour eux. Ouais. Mais il faut aussi leur admettre que c'est difficile pour nous. Nous aussi, on trouve ça difficile. Parce que si on l'admet pas, c'est comme si on y est. Puis là, ils vont se sentir tout seuls à trouver ça difficile. Alors que s'ils savent que vous aussi, vous trouvez ça difficile puis que oui, c'est difficile pour tout le monde, mais on va essayer ensemble de faire en sorte que ce soit le moins difficile possible pour la portion où on a du contrôle sur ce qu'on peut faire. Puis vous savez, des fois, c'est juste de trouver refuge, puis je veux pas donner des solutions réductionnistes, mais des fois, c'est juste de trouver refuge dans le fait que on va faire un souper du samedi soir en plein milieu de semaine, puis on va écouter un bon film, ce qu'on fait pas nécessairement en plein milieu de semaine, mais faut essayer de trouver des refuges ou des solutions qui vont faire en sorte que il y a des choses qu'on peut pas faire, mais on va essayer de le remplacer par d'autres bonheurs qui nous sont possibles puis qui sont à notre portée. Et ça s'appelle réfléchir ensemble à des solutions. Puis il faut le faire parce que, vous savez, à la semaine 1, on ne sera pas nécessairement dans le même état d'esprit qu'à la semaine 3 ou qu'à la semaine 4. Alors, il faut le faire, je vous dirais, de façon continue, puis il faut réévaluer. Mais je pense que c'est certainement pas salutaire d'essayer de se montrer au-dessus de tout ça. Puis, tu sais, il faut reconnaître pour chacun que chacun vit ses difficultés. Faut pas les nier, mais faut pas les amplifier non plus, faut pas les dramatiser, faut les regarder avec une certaine perspective. Puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on va être capable de trouver des solutions au quotidien. Puis de se rappeler aussi que même si ça paraît long une année dans une vie, ça reste une parenthèse sur un continuum de vie.
Docteur Christine Groulx, merci. Psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, parce que ça sera pas facile nécessairement ces 28 jours-là. Je pense que si je rentends une seule fois, ça va bien aller. Là. Je donne pas cher de ma peau. Je pense qu'on devrait commencer à penser à un slogan. T'sais, peut-être qu'on pourrait dire, à un moment donné, ça va bien aller, mais ça sera pas tout de suite.